Miguel, c'est un petit garçon de 5 ans qui est tombé du 9e étage de l'immeuble cossu où travaillait sa mère. Mirtes Renata était sortie promener le chien de sa patronne à qui elle avait confié son enfant, mais elle n'a rien surveillé du tout et Miguel a pris l'ascenseur tout seul pour retrouver sa mère. Il est tombé de 35 mètres de haut. Alors une femme noire qui travaille pour une famille de blancs comme domestique, c'est le lot ici de 6 millions de travailleuses. Mais ce drame a surtout provoqué la colère parce que la patronne, blanche, a été libérée moyennant une caution de moins de 3 800 francs. Suisse. Le prix de la vie d'un enfant noir, fils de domestique, il n'en fallait pas moins pour que le Black Lives Matter ait sa version en portugais « Vidas Negras Importam ». Deborah Dias est étudiante en sciences sociales à l'Université fédérale de São Paulo. Elle est militante antiraciste et sur les réseaux sociaux comme beaucoup, elle a immédiatement crié sa révolte suite à la mort de Miguel.
Je n'en peux plus de me réveiller tous les matins en deuil pour mon peuple, le peuple noir. On est en 2020 et je suis la première de ma famille à faire des études supérieures et à ne pas travailler comme femme de ménage. Imaginez par exemple, mais c'est la réalité, une mère célibataire avec 3 enfants qui reçoit 1200 réals d'aide d'urgence du gouvernement. Elle paie 800 de loyer, elle paie l'eau, l'électricité, la nourriture, qu'est-ce qui lui reste? Alors si on lui propose une journée de ménage ou de travailler comme manucure, elle y va. Les favelas ne sont pas en quarantaine.
Edinha Fernandes fait partie de ces rares employés de maison qui en ce moment reçoivent leur salaire intégral de la part de leur patron, comme on les appelle encore ici. Elle a habité plus de 20 ans dans la grande favela de Paraisópolis à São Paulo. Depuis 5 ans, elle vit dans un appartement tout aussi exigu à 4. Mais habiter une favela ou un immeuble, ce sont deux réalités très différentes que le coronavirus ne fait qu'aggraver.
C'est dur parce qu'il y a des coupures d'eau tous les jours dans les favelas. Les ruelles sont sales, donc que vous le vouliez ou non, vous vivez dans un endroit insalubre. Les maisons sont étroites, les familles nombreuses étouffent, elles n'ont nulle part où aller. Là où j'habitais, il n'y avait pas de cours à l'air libre. La configuration est vraiment dure pour ses habitants.
En plus des conditions de logement très mauvaises, d'accès à l'eau, de pauvreté et donc des maladies comme le diabète et l'hypertension, le racisme peut aussi fausser un diagnostic et donc tuer. Plus de 55% des Brésiliens se reconnaissent comme noirs ou métis, mais ils sont au moins 62% des victimes fatales du virus. Alors pour comprendre cette équation, j'ai interrogé plusieurs médecins noirs. Bien sûr, ils sont minoritaires au Brésil, mais tous voient ces inégalités au quotidien dans leur pratique. Un mécanisme que le docteur Mona Lisa Nunes, en première ligne dans le combat contre le coronavirus dans plusieurs hôpitaux à São Paulo, nous explique très bien.
Quand il s'agit de la santé, les préjugés racistes sont très dangereux. Par exemple, l'idée selon laquelle le patient noir est plus résistant, que ses symptômes ne sont pas si graves, ou alors penser que le patient noir ne veut pas aller travailler parce que ce sont eux qui assument les métiers les moins qualifiés, comme les éboueurs, ceux qui travaillent dans les supermarchés. Moi, en tant que médecin noir, je suis moins influencé par le racisme, et donc le patient noir se sent écouté. C'est difficile à expliquer de façon rationnelle.
Et les commentateurs et juristes se renvoient la balle pour savoir si Madame Corcherial est ou non responsable de la mort de cet enfant dont elle a eu la garde. Ce qui est sûr, et c'est la mère du petit Miguel qui le dit à la presse, c'est que si la victime était un petit garçon blanc et la femme responsable noire, elle serait déjà en prison, condamnée par l'opinion publique.